Surtout quand on regarde les textes de Quignard, sont en fait très construits. On a l'impression d'être souvent face à une encyclopédie. Quand on lit certaines séries, on a l'impression qu'il nous raconte une grande théorie de la philosophie, mais qui fonctionne sur l'aphorisme, donc sur le discontinu. Il y a presque un court-circuit, une disjonction. Comment peut-on traduire ces disjonctions, ces discontinus, du point de vue de la musique ?
Je m'en rappelle maintenant que vous me posez la question. J'avais mis dans mes premières notes d'intention cet aspect divers dans les formes m'intéressait beaucoup chez Quignard, parce qu'effectivement il y a de l'aphorisme, il y a de l'anecdote, il y a du conte, il y a de la confession, il y a de la méditation, il y a du récit historique, et il y a quelque chose de très kaléidoscopique dans les formes qu'emprunte la langue de Quignard. Et ça, je pense que j'ai pas eu beaucoup à réfléchir là-dessus, parce que ça me parlait déjà en simple transposition avec mon travail. Moi, jusqu'à présent, je ne dis pas que ça n'évoluera pas, mais c'est vrai que la notion d'hétéroclite me parle assez. Je parlais tout à l'heure de vibration pour parler de la musique et puis de son extension dans les autres sens. Et je rajoute maintenant une deuxième chose qui est cette idée d'intervalle. Moi, j'aime bien qu'il y ait des intervalles entre les choses, que les choses ne se ressemblent pas et qu'on puisse superposer deux choses qui ne se ressemblent pas et qu'il y a un intervalle qui se crée entre elles et qui crée de la vibration encore une fois. Mais on peut aussi, dans le temps, passer d'états musicaux et même presque de langages musicaux très différents, et que ça produit quelque chose du sens musical. Alors, c'est pas non plus une apologie postmoderne. On aurait pu faire un projet comme ça sur Quignard. Enfin, moi, j'aurais pas pu, mais j'imagine ça pourrait se faire de convoquer des musiques de différents siècles, de différents styles, et construire quelque chose avec ça. Là, voilà, ça reste ma musique, qui est une musique d'aujourd'hui, avec certainement ses défauts et ses qualités, mais en tout cas, c'est la mienne. Mais c'est vrai que c'était des endroits de jeu, ce côté hétéroclite dans la pensée de Quignard. Et quand je dis de jeu, à deux endroits, enfin, dès l'écriture, c'est très ludique de se dire, ah tiens, ce texte qui a l'air d'une conférence extrêmement savante sur le rythme, sur les intervalles morts, sur le tic qui est le tac, et sur le temps qui est plus long entre le premier tic et le deuxième tac que entre le tac et le tic, alors que c'est le même. D'un seul coup, moi, j'entendais une musique extrêmement mécaniste. Alors encore une fois, ça part de choses très littérales, mais j'espère les pousser à un point qui fait qu'on passe dans une certaine poésie ou une jubilation ou une extravagance. Enfin, il y a cette idée-là qui m'a beaucoup animé, ouais, en écrivant.
Alors, on parlait de la voix. Est-ce que vous avez pensé tout de suite aux comédiens, au corps? On parlait de la voix, mais on peut parler aussi du corps. Peut-être qu'un comédien, c'est un corps. Et vous l'aviez choisi. Comment s'est fait le choix?
Je pense que ça a été une des premières choses, hein, quand on a travaillé la production, c'était effectivement le choix de l'interprète pour le texte, du comédien. Toujours difficile rétrospectivement, surtout quand ça s'est bien passé, ce qui est le cas ici, de savoir par où c'est passé. Moi, j'étais en quête de comédien et plusieurs fois j'en ai rencontré un certain nombre. Et plusieurs fois, le nom de Pierre Beau m'a été conseillé, soufflé par des personnes plus ou moins proches de milieux différents. Pierre est un comédien qui a un amour de la musique, qui a une fascination, osons le mot quignardien, pour la musique. Et il a l'habitude de faire des projets avec des musiciens, même si c'est dans d'autres esthétiques. Voilà, il a un duo avec Vincent Courtois, par exemple. Et donc, le fait d'être au plateau avec des musiciens à côté de lui, c'est quelque chose qui l'aime beaucoup. Et puis, il y avait une deuxième chose dans son travail qui faisait que je me suis intéressé à lui, c'est que Pierre est à la fois très attaché à la rencontre avec le public, à ce qu'un texte passe, à ce qu'on ne soit pas dans l'ésotérisme, mais en même temps, il se met des défis sur les textes, c'est-à-dire qu'il a des solos comme ça qui sont des textes a priori extrêmement difficiles, comme la conférence de Cage ou comme comment une figue de parole et pourquoi, qui est un texte de Ponge. Et donc, cette idée-là d'une littérature exigeante et en même temps d'en faire quelque chose qui passe et qui touche, c'est un défi qu'il aime beaucoup et qu'il relève généralement brillamment. Donc, pour ces deux raisons, voilà, j'ai approché Pierre et ensuite, ça s'est fait relativement vite, on va dire, là c'est plutôt la relation, on va dire, presque metteur en scène et comédien. On s'est approché, on s'est rencontré, on a beaucoup discuté avant de se mettre au travail. Et puis, dès les premières séances à l'IRCAM, où Pierre était seul à lire des textes, je l'enregistrais, puis on faisait quelques essais d'électronique, voilà, c'était parti.
Pourquoi l'IRCAM? Qu'est-ce qui vous intéressait? Est-ce que c'est d'utiliser une technologie ou était-ce de détourner une technologie?
Je fais partie d'une génération pour laquelle les technologies sont quelque chose d'assez évident. Je les utilise depuis longtemps, mais je m'étais rendu compte, voilà, récemment, que justement, les utilisant depuis longtemps de manière très empirique et très personnelle, ça a des qualités qui, je peux être très autonome sur la plupart de mes projets. La technologie n'est jamais au-dessus de moi, je suis pas perdu face à la technologie, je l'utilise vraiment au service de ce que je veux faire et non pas comme un monde qui me fascinerait et dans lequel j'aurais envie de me plonger sans savoir où je vais. Mais pour autant, sur ce projet-là, comme j'assumais beaucoup de responsabilités, à savoir la dramaturgie, la composition, la mise en scène, la direction artistique générale du projet, je me suis dit que c'était peut-être le moment de retourner voir du côté de l'IRCAM, que j'avais laissé il y a une dizaine d'années, ça faisait une dizaine d'années que j'étais pas vraiment au courant de ce qui s'y faisait en termes de technologie, en quelque sorte un petit peu pour me faire une mise à jour, mais vraiment je crois aussi dans cette idée d'avoir un vrai partenaire. De la même manière que j'ai rassemblé un quatuor, un comédien, un éclairagiste, un scénographe, j'avais envie de travailler avec quelqu'un, avec une personne humaine qui me renvoie des choses, qui me renvoie son avis, donc je suis allé voir l'IRCAM pour ça. Il est vrai aussi motivé par un travail que j'avais vu au Festival d'Avignon il y a quelques années, qui était un Mage en été, texte d'Olivier Cadio, mis en scène par Lagarde, avec Laurent Poitrenaud. Donc je parlais de Pierre Beau tout à l'heure. Voilà, Laurent Poitrenaud était aussi un comédien auquel j'avais pensé, par exemple, pour ce texte. Et Laurent, d'ailleurs, m'a aussi conseillé Pierre, parmi les nombreuses personnes qui m'ont conseillé Pierre. Et en fait, j'avais vécu cette représentation en me disant que, voilà, qu'il y avait des très belles choses sur une électronique assez fine, assez subtile, sur un traitement de la voix qui n'était pas purement démonstratif et gadget, mais qui était assez bien mené, assez poétique, avec du sens. Pour cette raison-là aussi, je suis allé voir l'IRCAM. Et ensuite, c'est vrai, il y avait dans l'idée d'avoir de l'électronique temps réel, il y avait plusieurs choses hein, au départ du projet. L'une, je parlais tout à l'heure du contexte de la représentation. Je savais que j'allais faire une forme pour grand plateau. Voilà, c'était le contexte de la production. Quelque part, je me méfiais un petit peu de l'aridité de ce que pouvait être une écriture aujourd'hui pour le quatuor à cordes. J'avais peur d'un côté un peu sec, un peu devant. Et donc, j'avais tout de suite envie d'une électronique qui serve plutôt à envelopper un peu la salle, qui pouvait être au départ uniquement un travail de spatialisation. Il s'est avéré qu'on est allé plus loin, mais en tout cas, l'idée de départ, c'était là. C'était un peu d'augmenter le quatuor de manière subtile, mais plutôt pour amener une sorte de confort d'écoute moderne où aujourd'hui tout le monde met les casques sur les oreilles. Donc l'idée d'être immergé dans le son, je pense que ça fait vraiment partie de notre culture d'écoute aujourd'hui et que c'est important, en tout cas quand on fait du spectacle musical, qu'on se pose cette question-là. Voilà. Après, ça peut faire sens hein, de mettre du son juste devant, mais moi j'avais le texte de Quignard étant suffisamment exigeant, l'écoute de musique contemporaine l'étant aussi, j'avais quand même envie qu'il y ait ce confort d'écoute, qu'on puisse prendre le spectateur par l'espace sonore. Il y a également du traitement en temps réel des instruments. Là, c'est pareil, qui est presque considéré comme une augmentation spatiale du quatuor. C'est-à-dire que c'est pas une électronique qui dénature le quatuor, c'est une électronique qui vient l'orchestrer, le faire briller, le faire un petit peu rebondir, scintiller. Mais on a toujours la source acoustique extrêmement présente. Un troisième point dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le travail sur la voix, qu'on a fait avec beaucoup de parcimonie, puisqu'on est la plupart du temps dans le spectacle avec une sonorisation de soutien et une voix très naturelle, mais il y a certains passages qui sont choisis par rapport au sens du texte, voilà, où la voix d'un seul coup prend une autre ampleur ou se démultiplie, et c'est par rapport à des phrases ou des mots très précis de Quignard qui parlent du son qui viole, du son qui est démesuré, du son qui est partout. Donc il y avait quelques petits points presque illustratifs qui étaient assez agréables à utiliser.
Donc vous aviez avec vous un rime, si je crois.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai travaillé avec Manuel Poletti. Là aussi, c'était une belle expérience. On se connaissait de nom avec Manuel, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Je pense que c'est aussi le métier de gens de la production de l'IRCAM de fabriquer les binômes compositeur-rime, réalisateur en informatique musicale, parce que comme toute aventure de travail, mais aussi humaine, enfin voilà, il y a une alchimie à trouver. Et c'est vrai qu'avec Manuel, on s'est bien entendu, je pense, parce que Manuel a aussi une expérience beaucoup du spectacle vivant et que c'est quelqu'un de très pragmatique et que moi, je venais aussi avec des demandes assez pragmatiques et j'étais pas dans une optique de recherche pure et fondamentale, mais plutôt dans une optique de réaliser des idées assez alors je dis simples, c'est pas forcément le bon mot parce qu'ils sont jamais simples à réaliser, mais en tout cas on savait, enfin je savais où j'allais et Manuel aussi est très conscient de ce que sont les contraintes de tournée d'un objet artistique, parce que il faut le dire, on peut envisager une production IRCAM comme quelque chose de permet d'aller très très loin, mais qui du coup a une grande difficulté à être reproductible dans les divers contextes de la diffusion de la musique ou du spectacle vivant aujourd'hui. Là on était clairement dans le cadre d'une production qui a vocation à tourner. Enfin, on lancera plus d'une vingtaine de dates en début de saison prochaine. Donc il y avait aussi toute cette dimension-là, comment faire une régie informatique qui marche à tous les coups, qui soit pas excessivement onéreuse sur le plan des fiches techniques, qui puisse être reprenable par d'autres RIM ou d'autres ingénieurs son en tournée suivant les calendriers et les disponibilités de chacun. Et finalement, moi, ce côté pragmatique, loin de me briser les ailes, au contraire, c'est une contrainte avec laquelle j'aime beaucoup travailler. C'est toujours comme ça que je travaille, finalement.
Et alors, vous parlez de l'immersion. Alors, quand on pense au terme de l'immersion, mais qui va en contradiction avec l'histoire de la paupière, puisque l'immersion, c'est être complètement dans le son et refuser, justement, quelque chose qui pourrait nous en éloigner, presque la fusion, c'est ça, l'immersion. Et puis, de l'autre côté, dans votre titre, comment échapper au son ?
Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Encore une fois, on peut réfléchir très loin derrière ça, mais enfin le constat de base, il est irréfutable. C'est que de toute façon, on est dans le son. Et tant qu'à être dans le son, autant y être bien. Voilà, je réponds comme ça un peu simplement, mais je pense que c'est important. Cette question-là, je me répète un petit peu, mais d'autant plus quand on est dans un langage dont tout le monde n'a pas les codes, puisque par définition il est en train de s'inventer. Cette musique qui s'écrit chaque jour par des compositeurs encore vivants ne repose pas sur des choses facilement identifiables dont on connaît les codes. Et du coup, la question de la sensation, c'est-à-dire de croire, d'y croire au niveau de la sensation, elle est extrêmement, extrêmement importante. Parlant d'immersion, finalement, on passe presque de l'entendre à quelque chose qui est plus généralement de l'être, quoi. Être dans quelque chose, y être entièrement, y compris avec le corps, puisque le son, ça passe par les tympans, mais ça passe aussi par le corps, par l'entièreté de la masse osseuse et musculaire qui se met à vibrer. Et moi, cette idée du son qui est une onde et qui nous bouscule ou qui nous caresse, elle est assez forte poétiquement. Moi, elle me parle beaucoup.
Le premier son, c'est un son grave ou un son aigu ?
Et j'aime à penser, je suis assez cageien là-dessus, que le premier son du spectacle, c'est un petit peu le son de la salle avec les spectateurs qui se calment au moment où la lumière baisse, cette tension qui monte, ce moment où on devient attentif au bourdonnement d'une climatisation, qu'en général j'essaye de faire couper avant le spectacle, mais au craquement d'un projecteur, ou au craquement d'une latte de parquet sur le plateau. Une autre chose qui est déroulée par Quignard, mais il n'est pas le seul à en parler, mais du silence absolu qui n'existe pas et qui a toujours un minimum sonore auditif, comme il dit. J'aime à penser que le premier son du spectacle, il est dans cette tension, ce presque rien, mais qui est habité par, ne serait-ce que par la respiration de chaque spectateur. Et sinon, pour avoir la réponse au premier son musical du spectacle, il faut venir le 18, 19 et 20 juin à Montreuil.
Vous avez le sens pratique des choses. Alors, une dernière question. Le visuel, il y a de la vidéo ?
Non, il n'y a pas de vidéo. La partie visuelle, elle est prise en charge par trois choses. Évidemment, il y a la mise en scène, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler avec Quatuor à cordes, parce que, encore une fois, tout se pense en même temps dans la création. C'est une sorte d'entonnoir comme ça qui se resserre, qui arrive à ce qu'aujourd'hui pour moi est une évidence, mais qu'au départ n'était pas si clair. Le Quatuor à cordes, indépendamment de tout ce en quoi c'est inspirant d'un point de vue musical, du point de vue de la référence à l'histoire de la musique, etc., du point de vue de l'archétype de la musique savante occidentale et dont Quignard parle, c'est aussi très concrètement, quand on parle de théâtre musical, une formation qui est capable relativement facilement de se déplacer dans l'espace, de créer des images, quatre personnes avec quatre chaises et des instruments. Bon, il n'y a que le violoncelle qui est un petit peu plus encombrant, mais encore, on a une magnifique violoncelliste qui se déplace avec beaucoup de grâce avec son instrument. Donc cette idée de composer des images très simplement, encore une fois, c'est cinq chaises, le comédien et le quatuor, pour reconfigurer la situation de concert. Il y a bien sûr la création des lumières, et puis il y a surtout le travail d'Olivier Thomas, qui est scénographe, qui est un scénographe avec qui je travaille depuis plusieurs années, et qui là a imaginé une scénographie très simple, mais que je trouve extrêmement belle et extrêmement efficace aussi du point de vue de la dramaturgie, et qui est constituée de grands panneaux de plexiglas sur lesquels du texte est en fait gravé. Donc c'est pas de la vidéo, c'est vraiment en dur, c'est analogique pour le coup, et ce texte peut apparaître ou disparaître grâce à un procédé qui fait que les panneaux de plexiglas qui sont comme un cadre fait de deux feuilles de plexi l'une contre l'autre peuvent se remplir ou se vider d'une matière blanche, un peu comme un sablier géant qui se remplit ou qui se vide, et ça fait disparaître ou apparaître le texte. Et cette idée-là, au moment où on l'a aboutie, je savais que c'était la bonne pour moi parce que d'un seul coup, elle répondait à plein de chants du spectacle. Elle répondait poétiquement à cette idée de sable, d'enfouissement archéologique qui est très présente chez Quignard, qui va gratter des couches, découvrir des choses. Elle avait un rapport au temps, à la dramaturgie du coup, puisqu'elle fait apparaître ou disparaître les textes, donc il y a une sorte de scansion temporelle du spectacle qui est assez forte. Elle a cette chose visuelle très simple, mais qui est qu'on peut lire le texte dans le silence, donc à lire des bribes de texte de Quignard, et pour moi c'est une autre façon de faire sonner le texte, de le faire sonner à l'intérieur de la tête de l'auditeur et du spectateur, et pas uniquement par le biais de l'acoustique. Et puis c'est une scénographie qui produit du son, puisque ces cadres, quand ils se remplissent, quand ils se vident, joue un son qui est le son de l'arbre de pluie, finalement, qui est un son que j'aime beaucoup. Je considère que c'est un son qui lave les oreilles, un peu comme le bruit de la vague, lave la plage. Et d'ailleurs, Quignard parle de se laver les oreilles. Enfin voilà, donc tout ça, au bout d'un moment, avait l'air très cohérent dans mes recherches personnelles. Et c'est vrai qu'aussi visuellement, ça structure l'espace et ce fait de pouvoir remplir tout un espace de blanc, puisque cette matière qui est à l'intérieur des cadres est blanche, permettait aussi un travail de lumière ou de projection d'ombre extrêmement intéressant.
Et quand on a fini un travail, est-ce qu'on revient dans le livre que l'on a lu ?
Pour l'instant, non. Et je dois même dire que j'ai lu un des derniers Quignard récemment, avec beaucoup de plaisir. Et j'en parlais d'ailleurs avec lui à l'automne quand il était invité à la Maison de la Poésie. Puis là, je me suis dit, non, je vais faire une pause, là, Quignard, ça suffit. Parce que c'est vrai que ça m'a accompagné tellement fortement que je suis plus tout à fait frais pour découvrir ça. Donc je pense que j'y reviendrai, mais d'ici quelques années, je crois.
Merci, Benjamin.